Moi, c'est André Limbujima, locataire oriental. J'ai réfuté totalement ce qui est...
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Les taux d'échange entre les francs congolais et les dollars américains a franchi il y a deux semaines la barre symbolique de 2000 francs congolais pour un dollar et rechuté hier jusqu'à 1500 francs congolais pour un dollar américain. Pour stabiliser cette situation, la Banque Centrale du Congo, BCC, l'autorité monétaire en RDC, recommande entre autres les gels des dépenses non prioritaires ainsi que la suppression d'autres taxes à la douane et la réduction de la TVA. Pensez-vous que ces mesures, une fois appliquées, devront stopper la dépréciation rapide de la monnaie nationale et redresser ainsi l'économie? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Également, vous pouvez interagir sur notre page pa@radiocapi.net. Polydor Basunga et Piro Elamegi concourent à la production de cette émission. J.R. Lungembo, Luabung Anji est à la présentation de ce programme. Bienvenue à tous.
À l'occasion des 75 ans des Nations Unies, retrouvez sur les antennes de Radio Okapi l'histoire de l'engagement de la République démocratique du Congo dans le système onusien. L'accompagnement de l'Organisation mondiale dans le processus de développement et de stabilisation de l'RDC. Ensemble avec la famille de l'ONU.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Monsieur Jean-Louis Kayembe qui est avec nous. Monsieur Kayembe, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Alors, vous êtes directeur des opérations à la Banque Centrale. Vous avez suivi, comme nous, la dégringolade du taux d'échange, c'est dimanche. Alors, d'entrée des jeux, d'aucuns se posent la question de savoir, entre la Banque Centrale et les cambistes, qui dirige la monnaie congolaise actuellement?
Disons, merci beaucoup, Gilles, pour votre question. L'autorité monétaire reste la Banque Centrale. Et donc la Banque Centrale, de par ses missions traditionnelles, doit veiller sur la stabilité interne et externe de la monnaie. Donc, veille sur les taux d'inflation et sur la stabilité du taux de change. Taux d'inflation, la stabilité interne et les taux de change, la stabilité externe de la monnaie. Et donc, la Banque Centrale qui est l'autorité monétaire. Mais il y a donc, par rapport à parallèlement à cela, il y a des marchés qui sont organisés par rapport à la situation de la monnaie. Il y a des marchés monétaires, on en trouve au niveau de la Banque Centrale qui donne la liquidité aux banques. Il y a des marchés interbancaires, là où les banques se prêtent de l'argent. Et il y a également, ça, il s'agit de marchés monétaires, il y a des marchés d'échange. Et les marchés d'échange, il y a les marchés officiel entre les banques interbancaires, ces chambres de devises contre les francs congolais. Il y a également les marchés, à part les marchés interbancaires, il y a les marchés parallèles. Et les marchés parallèles, c'est là que l'on retrouve les cambistes qui sont que nos échangeurs annuels. Et aussi, ce sont des opérateurs économiques qui ont comme mission de faire l'échange de monnaie. Alors, voilà un peu la réponse à votre question.
Voilà. Donc la Banque Centrale reste l'autorité monétaire. Mais alors qu'est-ce qui explique la variation à la baisse du taux d'échange que nous avons constaté hier?
Oui, d'abord il faut dire que, pour préciser, lorsque le taux d'échange peut être exprimé, il y a deux façons, on peut être coté si vous voulez, au certain et à l'incertain. Et donc, parce que vous parlez de la variation de taux de change, nous sommes dans un système de cotation à l'incertain. C'est-à-dire, un dollar est égal à combien de francs congolais? C'est ce que nous faisons. c'est au certain, c'était un franc congolais égal à combien de dollars. Alors donc, dans le système qui est le nôtre, où nous sommes dans un système de cotation à l'incertain, lorsque le taux de change de la monnaie nationale augmente, nous étions par exemple à 1500, nous passons à 1700, il y a dépréciation du taux de change. Et l'inverse, c'est en fait la situation qui caractérise, que nous caractérise pour le moment, le taux de change est en train de baisser. Là, quand le taux de change, on est en cotation à l'incertain, le taux de change est en train de baisser. Là, on parle de l'appréciation du franc congolais. Donc, je voulais, donc, quand vous parlez de la variation du franc congolais, soyons précis, disant la monnaie s'est appréciée et également la monnaie s'est dépréciée.
Mais qu'est-ce qui explique principalement l'appréciation de cette monnaie?
Ici, nous sommes, faisons face à une situation où la monnaie, le taux de change a baissé, donc, si on veut savoir qu'est-ce qui explique cette situation? D'abord, rappelez-vous que nous avons bien commencé l'année avec une situation stable. La monnaie était très stable. Nous avions donc terminé décembre, je crois, avec un taux de 1672-73. Et donc, jusque fin mars, il n'y avait rien, il n'y avait pas de choc. Le choc, quand je parle de choc, c'est une situation qui vient perturber la stabilité. Jusque mars, il n'y avait rien. Avril, c'est le monde entier qui a été surpris par une crise sanitaire. Une crise sanitaire qui a eu des implications suite aux mesures qui avaient été décidées pour limiter la propagation et arrêter donc la maladie, des mesures qui ont été arrêtées, qui ont eu des implications sur le plan économique. Et donc toute l'économie mondiale a été affectée, l'activité économique était affectée. Et donc quand l'activité économique est affectée, la monnaie également qui reflète la santé des économies, les monnaies également de la RDC comme toutes les autres monnaies ont été affectées. C'est ainsi donc qu'à partir d'avril, notre monnaie a décroché, le taux a augmenté. Et donc, l'augmentation du taux veut dire tout simplement la notre monnaie s'est dépréciée. Et donc, face à cette dépréciation de la monnaie, les autorités, que ce soit le gouvernement qui est, et même la présidence qui est en fait les garants de la stabilité de tout le pays, le gouvernement et la banque centrale qui, particulièrement s'occupe de la stabilité, ont pris des mesures pour atténuer les effets. Vous avez donc parlé des programmes multisectoriels d'urgence, d'atténuation. Et il y avait même une matrice de mesures. Ces mesures avaient plusieurs volets. Il y avait donc le volet pour soutenir, étant donné que les mesures ont affecté les entreprises, il y avait donc des mesures pour soutenir l'offre, c'est-à-dire la production de biens et services. Il y avait également des mesures pour soutenir les ménages. Ce sont les mesures qui ont porté sous la demande, parce que ce sont les ménages qui ont été affectés, et ces mesures, ces conséquences ont affaibli la capacité des ménages d'acheter des biens et des services. Donc il fallait aussi des mesures pour atténuer l'impact sur la demande. Et il y avait aussi des mesures qui rentraient dans de la stabilisation du cadre macroéconomique. Et donc c'est à ce sujet-là, les mesures de stabilisation, ce sont des mesures qui concernent la politique budgétaire, la politique monétaire et la politique d'échange. Et donc la riposte a été organisée au niveau du gouvernement avec bien sûr de missions précises en ce qui concerne chaque ministère et ce qui devait être fait. Alors en ce qui concerne la politique de stabilisation, parce que la première chose quand il y a un choc, une situation qui vient perturber, il faut d'abord stabiliser. Et c'est ce à quoi la Banque centrale s'est investie. Donc on a stabilisé en prenant d'abord, en mettant en place du côté budgétaire, la Banque centrale et le ministère des Finances ont travaillé pour arrêter d'abord le financement monétaire. Le financement monétaire, c'est-à-dire que l'État était en train de dépenser au-delà des moyens qu'il mobilisait. Et ça donnait lieu à des avances sur les trésors. Ces avances occasionnent la création monétaire, et donc une création monétaire, c'est-à-dire une situation de surliquidité qui avait prévalu. Et donc, première chose, ministère des Finances et Banque Centrale se sont mis ensemble pour dire plus question de financement monétaire. Comme vous le savez, le financement monétaire, ça a toujours été un choc permanent au sein de notre économie. Et donc, on a arrêté le financement monétaire et puis on a continué au niveau de la Banque centrale. On a pris toute une série de mesures. On a joué sur l'instrument taux directeur, la réserve obligatoire, des interventions sur le marché d'échange, ainsi de suite. Donc, il y a des mesures qui ont été prises, qui consistaient à stériliser la liquidité, l'excédent de liquidité, ou à ponctionner la surliquidité qu'on observait. et d'autres mesures qui consistaient à augmenter l'offre de devises. Comme je l'ai dit, les taux de change résultent donc de la loi de l'offre et des demandes. En ce moment-là, il y avait beaucoup d'excédents de liquidités, beaucoup de francs, comme vous, si vous voulez, sur le marché, et on a commencé par retirer progressivement, au travers des instruments de la Banque centrale, les francs en circulation. On a limité les paiements, il n'y avait plus assez suffisamment d'injections sur le marché. Et du côté de l'offre, on a commencé à renforcer l'offre parce qu'il y avait un problème. À part ça, on a pris d'autres mesures pour sensibiliser. On a eu des réunions avec les cambistes pour leur dire, voilà les mesures qui ont été prises. On a eu des réunions avec voilà les mesures qui sont prises. Et toutes ces mesures ont conduit donc à une inversion de tendance, à l'appréciation des francs.
Donc on peut dire qu'il y a un miracle s'est opéré. Entre-temps, il y a des prophètes des malheurs, ou notamment d'autres économistes, avaient prédit en son temps que les taux du jour devaient même dépasser plus de 2600 francs congolais pour 1 dollar durant les prochains mois, pour ne pas les citer, l'ancien Premier ministre, Matata Mponyo. Alors comment réagissez-vous?
Non, le problème c'est que les gens, quand ils réagissent, ils font des pronostics, bien sûr. C'est en fonction des tendances qu'ils observent et c'est peut-être, bien sûr, je ne peux pas prêter des intentions à n'importe qui. Il y a des gens qui jouent le rôle, le bon rôle de lanceur d'alerte. Il y a des gens qui lancent l'alerte pour dire, voilà, si rien n'est fait, si vous ne prenez pas telle décision, voilà là où nous allons. Bien sûr, là, parce qu'on ne peut pas interdire aux gens de faire des analyses ou de spéculer. Donc, nous prenons ça comme une alerte qui a été lancée pour dire, voilà, à l'allure où vont les choses, si rien n'est fait, si le gouvernement ne s'investit pas, si la Banque centrale ne prend pas de mesures drastiques, nous allons, c'est une hypothèse pessimiste, ils étaient pessimistes, et donc dans une situation de prolongation des tendances, à politique inchangée, et nous allions aller vers ces taux-là qu'ils ont avancé. Mais je crois que c'est beaucoup plus que dans une telle situation, les gens devaient beaucoup plus être optimistes parce qu'on ne peut pas considérer que une telle situation, que les gouvernements et la Banque centrale ne devraient rien faire, donc demeurer dans l'immobilisme. Donc je crois que dans cette situation, les gens devaient être beaucoup plus optimistes, disant que la Banque centrale et les gouvernements devraient prendre des mesures et pour préserver le pouvoir d'achat de la population et arrêter la dégringolade du franc congolais. Donc voilà un peu ma réaction par rapport à ça. En tant que lanceur d'alerte, c'est bon, mais également, je crois que les gens devaient être modérés dans leurs hypothèses pour dire, quand vous avez lancé l'alerte, vous vous dites, voilà, si vous ne faites rien, politique inchangée, voilà là où nous allons. Mais si vous prenez des décisions, voilà où nous pouvons rester. Parce que quand on fait des projections, on a toujours des scénarios. Mais un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Mais généralement, eux, ils ne prennent que les scénarios pessimistes, où ils disent, voilà là où nous devons aller. Mais ils ne disent pas, voilà, si les décisions sont prises par le gouvernement, par la Banque centrale, voilà là où nous pouvons rester ou là où nous pouvons aller. Donc comment la situation peut s'améliorer.
Voilà. Alors, juste une question avant de retrouver les auditeurs. Quelle est, à ces jours, la vraie parité? Est-ce que nous sommes à 1 franc, à 1 dollar pour 1500 francs congolais ou bien nous sommes à 1 franc, à 1 dollar pour 2000 francs congolais?
Oui, le problème, c'est d'abord savoir que nous ne sommes pas dans un régime de change fixe où la parité est fixée par l'autorité monétaire, par la Banque centrale, ce qui est le cas dans d'autres pays où il y a les régimes de change fixe. Nous sommes dans un régime de change flottant, c'est-à-dire les taux de change est déterminé par les forces du marché, donc selon la loi de l'offre et de la demande. Et nous veillons, en tant qu'autorité monétaire, nous veillons tout simplement sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de grandes fluctuations des taux sur le marché. Nous veillons à ce que la volatilité des taux ne puisse pas ne soit pas très très importante sur le marché. Voilà les rôles.
Dès lors que sur le site de la Banque centrale, il est marqué 1900 francs congolais pour 1 dollar, mais à la cité, il y a une forte spéculation. Les gens sont allés jusqu'en 1500. Hier, il y a eu une perte énorme de pouvoir d'achat. La monnaie, bon, finalement, personne ne sait. C'est une confusion. C'est pourquoi vous, en tant qu'autorité monétaire,
Vous savez, on était dans une situation, même quand un chauffeur qui roule à vive allure, qu'il arrive quelque part, Il arrête sa course, le véhicule va se mettre à bouger dans tous les sens. Donc nous sommes dans cette situation-là de turbulence où les gens, ils voient maintenant les effets des mesures prises par les gouvernements et la Banque centrale, ces mesures commencent à porter, maintenant ils ne savent pas à quel sens se vouer. Mais donc, c'est une situation qui arrive généralement dans des paniques, parce qu'il y avait une bulle spéculative. L'arrêt de cette bulle-là, nous pensons d'ici 48 heures, nous observons sur le marché, parce qu'eux-mêmes, les camistes, ils savent s'il y a des francs, s'il n'y a pas, parce que c'est tous les jours qui déterminent les taux. Le week-end, généralement, c'est une période où les gens n'ont pas suffisamment d'informations, mais je crois qu'aujourd'hui, déjà au plus tard le soir, la baisse du taux, nous allons voir si nous allons, parce que ce qui a été fait était fait dans l'objectif d'apprécier les francs, et nous, notre objectif, c'est que les francs s'apprécient, et s'apprécient jusqu'à quel niveau. Nous souhaitons, et nous ne fixons pas les taux, mais généralement, nous voulons que les taux puissent peut-être revenir au niveau que nous, là où nous étions avant, dans la mesure du possible, avant que nous ne puissions connaître ces chocs.
Voilà.
Donc, si le marché a, nous pouvons dire, à 1500, à 1000, 2000, 1500, 1700, mais nous savons que d'ici 48 heures, parce que c'est eux qui déterminent les taux, ils vont voir la quantité de francs sous le marché, ils verront aussi la quantité de devises sous le marché, et nous allons voir un taux d'équilibre s'afficher ou s'établir d'ici en tout cas 24 heures.
Merci beaucoup. On revient à vous, le temps d'écouter les auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Ali Atanas Akadanga et Ali Aboutembo, je crois. Ali, vous êtes avec nous? Ali Mouchaba.
Oui, c'est Ali Mouchaba
Akalimi, oui. Vous avez la parole. Quelle est votre réaction?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'octroi de la parole. Je viens de suivre l'invité avec un intérêt soutenu. Mais malheureusement, je ne suis pas pour son argumentaire, étant donné qu'aujourd'hui matin, pour enrichir mon argumentaire, je suis descendu sur le terrain. J'ai consulté quelques gambistes sur place à Calémy. Ils m'ont dit que tout ceci est dû à la pandémie à coronavirus. Donc, aussi longtemps que la pandémie à coronavirus est dans nos murs, ça sera tellement difficile de pouvoir stabiliser les taux d'échange. Étant donné qu'il est connu de tous que la pandémie à coronavirus a dévasté toutes les économies du monde. Et la nôtre n'a pas été épargnée, même si elle a toujours été, durant toutes ces années, fragile. Donc, face à un tel état des choses, nous devons attendre que l'État parvienne à maîtriser la prolifération de la pandémie pour savoir s'il y aura appréciation ou dépréciation. Parce que lui-là nous parle de l'appréciation monétaire, c'est à Kinshasa. Mais si à Calémy, on continue à changer 1 dollar 2100 francs congolais. Donc, c'est tellement compliqué pour le moment. À Kinshasa, on parle de 1700, 1500, mais à Calémy, c'est 2100 francs congolais. Mais ce qu'on dit, oh, ils ont invité quelques gambistes, ils ont parlé avec eux au sujet de l'appréciation, au sujet du taux d'échange. Là, c'est à Kinshasa. Mais la République démocratique du Congo regorge autant de villes, autant de provinces. Donc, partout ici à Calémy, Bukavu, c'est tellement est compliqué. À cela, monsieur le journaliste, s'ajoute aussi un problème politique, mais je ne souhaiterais pas pouvoir m'étaler quant à ce. Mais ce que je voudrais dire à l'invité, c'est que dans le contexte actuel, c'est tellement difficile de pouvoir maîtriser, stabiliser les taux d'échange aussi longtemps que le pays est dévasté, aussi longtemps que la COVID-19 est dans nos murs. Ainsi, pour finir, monsieur le journaliste, est-ce que vous pouvez me permettre de poser une question à l'invité?
Allez-y. Rapidement.
Oui, je vais poser la question. Ma question est celle-ci. Est-ce que l'État parviendra à stabiliser les taux d'échange aussi longtemps que nous continuons à être pourfendus, à être torpillés par la pandémie à coronavirus? Parce que nous avons déduit que cette dépréciation monétaire est due à la pandémie à coronavirus. Voilà ce que je
alors,
peux dire.
Alors, pour compléter votre question, il y a même un auditeur qui a écrit, il dit que ça sera complètement impossible pour les gouvernements et la Banque centrale de stabiliser la monnaie dès lors qu'on sait que la réserve en devise a été touchée, parce que nous avons tous suivi les procès Vital Kamerhe, et aussi le plan de la trésorerie nous présenté par le ministre des Finances ne nous donne pas la lueur d'espoir, à moins que l'invité puisse nous dire ce qui est réellement vrai. Merci beaucoup, Ali Mouchaba. On va prendre Atanas qui est à Kananga. Atanas, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tout le monde, mes compatriotes de la République.
Oui, quelle est votre contribution, Atanas?
Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je vous ai bien suivi. J'ai lu même la proposition de l'autorité monétaire de la République démocratique du Congo que j'ai salué en passant. Vous-même, vous le savez, avant même la pandémie à COVID-19, le taux du dollar ici au Congo avait déjà pris l'ascenseur avant que cette pandémie ne s'affecte dans le monde. Et actuellement, comme vous venez de le dire, les autres banques sont des raisons, soi-disant, c'est la pandémie qui a tout bouleversé, en ce qui concerne l'économie mondiale. Alors, je bien entendu l'invité du jour à tant parler concernant les marchés d'échange. Ma préoccupation reste celle-ci. Est-ce que nos richesses que nous avons, qui nous fournissent quand même les devises ici au Congo, qui font à ce que les devises soient importées dans notre pays, sont-elles vendues? Si ces richesses sont-elles vendues, pourquoi il y a des cotations de francs congolais aussi que notre monnaie doit être valorisée? La deuxième préoccupation, nous avons observé il y a un certain temps toutes les institutions publiques ou privées travaillent avec les dollars. Même s'il s'agit de taxer, les clients, ils leur taxent en toujours en dollars. Est-ce qu'il y a, quelques mesures prises sur base de ces institutions qui fonctionnent avec les dollars ou il n'y en a pas? Parce qu'apparemment, actuellement, là, les sociétés comme les sociétés de télécommunications ont le taux de 205. Est-ce qu'il y a eu quand même des mesures prises sur base de cette situation? Et ensuite, la dernière préoccupation, est-ce qu'il y a une loi dans notre pays qui interdit l'empochettement des billets monétaires censés être bancaires? C'est ça au moins les préoccupations qui m'ont attiré suite à cette situation et aux préoccupations, propositions, j'allais dire, qu'a proposé l'autorité monétaire de la République démocratique du Congo. Car il a proposé, il faut qu'il y ait la suppression d'autres taxes à la douane, il faut qu'il y ait aussi réduction du TVA. Mais si il y a réduction de ces taxes, est-ce que la République aura quand même la possibilité de se ressourcer financièrement pour fonctionner? Vous-même, vous le savez, il y a les dans l'enseignement, les NI réclament leur salaire. Les écoles privées aussi réclament à ce que l'État s'occupe de. Comment, si ces mesures sont prises, comment l'État peut s'en sortir pour quand même soutenir?
Voilà, merci. Merci beaucoup à la tendance. Vous avez pratiquement les mêmes préoccupations, semblables d'ailleurs à celles évoquées par Ali de Kalemi. Alors, on revient à vous, notre invité, Jean-Louis Ekayembe. Vous avez suivi les uns les autres. La grande question aujourd'hui, est-ce qu'on peut arriver à stabiliser la monnaie dans les jours à venir ou garder encore l'appréciation de la monnaie dans les mois à venir? Dès lors qu'on sait que la réserve en devise a été touchée, les plans de la trésorerie nous présentés par les ministres des Finances nous fait déjà peur, d'aucuns redoutent qu'il n'y ait pas lueur d'espoir.
Oui, merci beaucoup, JR. Je voudrais d'abord donner une précision s'agissant de réserves en devises. Tout le monde parle de réserves en devises qui ont été touchées. Si elles ont été touchées, les réserves sont touchées, mais n'ont pas été épuisées. Parce que, pour le moment, nous avons un niveau de réserves en devises qui se situe autour de 1,4 milliard. Donc, on ne peut pas faire croire aux gens que, avec tout ce que les gens ont entendu, qu'on a touché aux réserves de la Banque centrale, donc pour faire croire que la Banque centrale est dans l'impossibilité d'intervenir sur le marché. Tout ce que nous faisons comme paiement tous les jours, ça affecte le niveau de nos réserves. Même quand quelqu'un part en mission, ça affecte tout paiement en devise, les services de la dette, ça affecte le niveau de nos réserves. Et donc, nous avons des réserves disponibles, nous avons des réserves indisponibles, et nous avons peut-être les noyaux durs, mais jusque-là, les noyaux durs de ce qu'on appelle réserves internationales, nous en avons encore. Parce que les réserves internationales, nous sommes autour de à peu près 850 millions. Mais quand on doit tenir compte de ce qui peut être utilisé, et nous atteignons 1,4 milliard. Donc je veux préciser que les réserves, nous en avons encore, et que tout ce qui a été fait au niveau de procès à 100 jours n'a pas terminé les réserves de la Banque centrale. Je rappelle que nous avons eu un appui à la balance des paiements du Fonds monétaire au mois de décembre de 365 millions. Ça a fait, ça a dû conforter les niveaux de nos réserves. Au mois d'avril, nous avons encore eu bénéficié d'un appui à la balance de paiement que nous avons converti, qui a été converti en appui budgétaire. C'était en devise 361 millions. Donc, comme nous sommes en pratiquement, nous ne sommes pas en programme formel, nous étions en programme de référence suivi par les services du fonds. En cas d'épuisement des réserves, nous sommes membres du fonds, nous pouvons solliciter au fonds un appui à la balance des paiements. D'ailleurs, plus de 50 pays, même des grandes économies qui ont été touchées par cette crise, et ont eu à faire recours au fonds monétaire, aux institutions internationales, pour leur permettre de faire face à la crise. Donc, par rapport aux réserves, voilà la question que je peux poser. Maintenant, il y a une question de fonds. Notre ami qui est de Calémie et qui a posé une question de fonds. La pandémie demeure, est-ce qu'on peut stabiliser? Oui, parce que ce que nous savons d'abord, que cette crise est venue amplifier déjà notre situation qui était plus ou moins vulnérable. Notre vulnérabilité, nous connaissons les vulnérabilités qui sont les nôtres, les problèmes qui sont les nôtres. La monnaie est le reflet de l'économie. Quand vous produisez beaucoup, vous pouvez faire face à la consommation et aux exportations. Alors d'abord, quand vous produisez, par exemple, vous produisez des oranges, je donne un cas simple, vous produisez des oranges, vous consommez les oranges, vous n'aurez pas à gaspiller, à chercher les devises pour importer les oranges. Donc si vous produisez la quantité que vous consommez, la monnaie sera stable, parce que c'est quand vous voulez importer qu'il y a une pression qui s'exerce sur les devises, et c'est en ce moment-là que les taux de change se déprécient. Donc, si nous produisons, la clé d'une stabilité durable, c'est la production. Parce que quand vous produisez beaucoup, vous limitez les importations. Et quand vous n'importez pas beaucoup, il y a moins de sorties de devises. Les gens ne cherchent pas des devises à l'extérieur. Alors maintenant, parce que tous les pays ne peuvent pas produire tout ce qu'ils consomment, le problème c'est quoi? Produisez beaucoup, une partie est consommée, et si vous ne consommez pas ce que vous produisez, exportez, et cela va vous permettre d'avoir des rentrées en devises. Et ces rentrées en devises vous permettront, si vous avez d'importer quelque chose, permettront de couvrir les importations. Donc je voulais seulement faire cette illustration pour dire la base d'une stabilité durable de la monnaie, c'est la production intérieure, la diversification d'une économie. Revenons à la pandémie. La pandémie, bien sûr, nous savons que les choses sont en train d'évoluer. Les mesures qui ont été prises dès le départ, des confinements qui étaient vraiment des mesures drastiques, maintenant on observe par-ci, par-là, une situation de déconfinement, même ici en RDC. Le chef de l'État a annoncé, on a commencé à déconfiner par vagues, donc l'activité est en train de reprendre, quand bien même cette activité a été affectée, parce que c'est pour la première fois, disons après, je crois, 17 ans, après 17 ans d'expansion, de croissance, nous allons connaître cette fois-ci une récession, c'est-à-dire une croissance négative. Cela va affecter l'économie, ça va affecter la monnaie. Mais tout ce qu'on est en train de prendre comme mesure, d'ailleurs, voilà pourquoi est-ce qu'on a des mesures d'atténuation. Donc nous allons connaître ces chocs, ça c'est évident. Mais nous faisons en sorte que nous puissions amortir les chocs. Quel est le rôle des amortisseurs dans les véhicules? Ce n'est pas parce que vous n'allez pas bouger, mais c'est quand les amortisseurs sont dans les véhicules pour permettre à ce que lorsque vous entrez dans un trou, que le choc que vous aurez, la secousse, soit amorti. C'est ce que nous allons faire. Au lieu de connaître, par exemple, une dépréciation de 50%, de 100%, comme d'autres monnaies, déjà, qui ont connu des appréciations de 30-40%, nous, le gouvernement, la Banque centrale, font tout pour atténuer cette dépréciation. Donc, la dépréciation, au lieu qu'elle soit importante, avec les mesures qui sont prises, on essaye d'atténuer. Par exemple, s'agissant de l'activité économique, les mesures qui ont été prises, d'allègements fiscaux par exemple, d'exonération, conduisent à des manques à gagner, comme notre ami l'a dit. C'est des manques à gagner, c'est-à-dire qu'il y a les trésors qui se délestent d'une partie de ses ressources. Et ça affecte les finances publiques. Mais pourquoi est-ce que l'État a accepté de les faire? C'est pour justement permettre à ce que puissent les entreprises qui puisse alléger la charge d'entreprise, l'impact négatif de cette crise sur les entreprises et sur les ménages, parce que la TVA, au finish, c'est une taxe qui est supportée par les ménages. Donc, le Trésor, le gouvernement qui est le garant, qui doit garantir, qui doit préserver les intérêts et des entreprises et des ménages, le Trésor accepte de ce manque à gagner au niveau des recettes. Et donc, parce que si les entreprises ne produisent pas, et si les consommateurs, les gens ne consomment pas, il n'y aura pas d'activité économique.
Oui, oui, oui.
Le fondement d'activité économique, c'est la production et la consommation.
Voilà. Monsieur Jean-Louis Kayembe, avant de retrouver les auditeurs, juste une question, parce que vous avez beaucoup plus insisté sur la production, et même d'autres économistes insistent également sur cette priorité qui pouvait nous amener à la stabilité de la monnaie. Ben, on sait qu'en économie, la production est une activité qui apporte de la valeur ajoutée par la réalisation des biens et services, mais elle consiste également à transformer des facteurs de production, entre autres matières premières, produits intermédiaires, main-d'œuvre, énergie, etc., etc., en nouveaux produits. Mais ce n'est pas une question d'une journée ou encore d'un jour, mais c'est question du temps à long et à moyen terme et à long terme. Donc ça ne pouvait pas changer directement les choses en une journée. Le taux qui avait grimpé et puis directement du coup ça dégringole.
Parfait, JR, je crois que vous êtes devenu économiste chevronné.
Mais c'est ma formation.
Vous avez très bien circonscrit les problèmes. Donc, par là, il faut entendre qu'il y a des problèmes structurels et des problèmes conjoncturels. Ici, nous faisons face à un problème conjoncturel, un choc qui est venu perturber la stabilité que nous avons. Alors, dans un premier temps, il faut s'attaquer à ces chocs-là. Donc, quand vous avez, par exemple, en médecine, vous avez un médecin qui est devant lui, il est malade, qui souffre d'autres problèmes, de rates et autres, mais qui fait la fièvre ou qui fait la tension. La première chose, d'abord, c'est qu'on arrête la fièvre, qu'on stabilise la tension avant de s'occuper, avant que les médecins puissent intervenir ou opérer les malades. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, les auditeurs doivent savoir qu'il y a des problèmes structurels, des problèmes de production. Ce sont des problèmes structurels qui, au fond, ce sont des problèmes qui garantissent la stabilité à long terme de notre monnaie et de notre économie. Mais là, nous faisons face à un problème conjoncturel, une situation qui est venue perturber, et donc il faut des politiques conjoncturelles. C'est pour ça que je parlais de la politique monétaire, budgétaire et d'échange. Ce sont des politiques pour faire face d'abord à cette pandémie. Maintenant, aussitôt que la pandémie sera passée, nous aurons atténué l'impact de cette pandémie. Maintenant, nous allons revenir sur des problèmes de fond. Pourquoi est-ce que nous ne produisons pas plus? Pourquoi est-ce que nous sommes exposés chaque fois qu'il y a un choc? Pourquoi est-ce que nous sommes? Quelles sont les vulnérabilités de notre économie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter la production? Et qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement pour diversifier notre économie? Tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes qui s'inscrivent dans la durée, donc des problèmes qui doivent être résolus à moyen et long terme. Maintenant, ici, nous faisons face à la crise. Qu'est-ce faire pour que cette crise ne puisse pas nous emporter, ne puisse pas faire des dégâts énormes auprès des entreprises et auprès de la population et auprès des ménages?
Voilà, on va poursuivre avec les auditeurs qui nous ont rejoints, François et Ali Ilebo, Chico à Kinshasa, et puis on reviendra à vous, le temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent aussi participer à cet échange citoyen, à cet échange républicain, au 081-890-6330 ou encore au 081-890-4969.
Parole aux auditeurs. Les Nations Unies célèbrent ses 75 ans d'existence. 75 ans d'efforts inlassables pour la réalisation d'un monde meilleur. En 2020, quelle évaluation les peuples du monde peuvent faire pour l'idéal de l'ONU? Quelle est la contribution des acteurs politiques, économiques et culturels congolais à la construction de cette œuvre humaine? La Radio de la Paix vous propose des émissions spéciales à l'occasion des 75 ans des Nations Unies. Retrouvez-nous sur nos antennes, ensemble avec la famille de l'ONU.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
François, vous êtes avec nous à Ilebo, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R. Lungembo.
Sur notre page Facebook, vous avez écrit que vous êtes un agent de DGRCAS Ilebo.
Exactement, JR, je suis le receveur principal de la Direction Générale des Recettes du Kassai et des Jerkas pour la province du Kassai, pour la province du Kassai, chez son excellence, monsieur le gouverneur de province, maître Dieudonné Piémé Toutecote. Donc, avant que je puisse intervenir, permettez-moi d'abord de vous saluer, JR, et saluer Pierre Moutela Mukendi à Kananga, un monétariste aguerri à Kananga, Kassai Central, et saluer aussi l'auditrice, votre auditrice, madame mon épouse, Malou Kabeye Marie à Ilebo. Donc, les sujets que vous avez abordés, c'est un beau sujet. Vous savez, chers journalistes, l'unité monétaire de la République du Congo a perdu la valeur à cause de la politique du pays qui vise les intérêts privés des quotas politiques et non les intérêts communautaires. En même la vie, je salue la proportion de la Banque Centrale du Congo, elle qui a une mission influente à l'heure qu'il est, et surtout faire un suivi permanent pour une réussite totale. Sinon, ça sera un slogan politique. Et au gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir actuel, doit voir loin et non attendre l'apologie en 2023. Il faut stopper la dépréciation monétaire et appliquer les stratégies rapides pour redresser l'économie nationale. Il faut que les pouvoirs en place se posent la question de savoir quelles sont les causes de cette dégringolade de la monnaie nationale face à la devise étrangère. Chers journalistes hier, la dépréciation d'une monnaie représente la baisse de la valeur d'une devise par rapport à une autre. Elle fait plus particulièrement référence aux devises ayant un taux d'échange flottant. Il s'agit d'un système selon lequel la valeur d'une devise est définie par les marchés du Forex selon l'offre et la demande. C'est comme j'ai suivi mes prédécesseurs, les gens qui parlent de la pandémie, autre chose. Non, c'est un problème de la volonté politique, chers journalistes. C'est un problème de la volonté politique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
Voilà. Donc, François, pour vous estimez qu'il suffit simplement d'une simple volonté politique pour qu'on retrouve la valeur de notre monnaie.
Exactement.
Qu'entendez-vous par volonté politique? Qu'entendez-vous par volonté politique? Est-ce qu'il faut aller vers la production parce que nous ne produisons rien?
Écoutez, merci pour la question. Je suis porteur de formation. Qu'est-ce qu'on attend par la volonté politique? Écoutez, aujourd'hui nous avons le président de la République qui est l'émanation de la population, du souverain primaire. Écoutez, quelle a été sa campagne? Quelle a été sa nation apologie pendant la campagne? Là, c'est la stabilité de l'économie nationale. Hein? C'est le social du peuple congolais, c'est le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Écoutez, je lui rends les hommages les plus différents.
Mais François, quand nous citons des économistes des hautes factures de notre pays et qui ont même fait, été des passages au niveau de la primature, pour ne pas citer Mouloumba Koje et les autres, tous n'ont pas pu stabiliser la monnaie. Parce que c'est une question très complexe.
Non, c'est question de la volonté politique, comme je vous ai dit là. La paix, c'est un organisme du gouvernement, c'est les conseils du gouvernement. Écoutez, le gouvernement est géré par le premier ministre, bien sûr, mais qui définit la politique de la nation avec le chef de l'État. Vous me suivez?
Allez-y, on vous suit.
Voilà. Donc, c'est un problème de la volonté politique. La volonté politique sous-entend avoir l'intérêt général de la population. Écoutez, la RDC, c'est un grand pays. Nous sommes un pays potentiellement riche. Nous devons mettre la politique de la production locale. Il ne faut pas seulement tendre la main à l'extérieur. Non, il faut éviter la politique de l'importation et créer la politique beaucoup plus. C'est-à-dire que tout
alors, moi, je vais vous aider un peu parce qu'il y a un auditeur qui a proposé, en appuyant bien entendu, je vais vous aider aussi à aller avancer parce qu'il y a un auditeur qui a écrit, a dit dans son message qu'il appuie, il est en train d'appuyer donc les mesures prises par la Banque Centrale de supprimer ou de réduire sensiblement la TVA, de supprimer certaines taxes à la douane et aussi de geler les dépenses non prioritaires. Est-ce que vous estimez qu'avec ces trois mesures, ça pourrait nous amener quand même sur une durée de pouvoir stabiliser notre monnaie? Voilà, on a des soucis. Alors, on prend Chico qui est à Kinshasa. Chico, bonjour.
Bonjour, monsieur Jure. Bonjour aussi à votre invité, pour ne pas aussi oublier les auditeurs du sujet de votre émission Parole d'auditeurs.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution?
Merci beaucoup pour la parole, monsieur Jure. D'entrée de jeu, nous devons savoir que l'instabilité monnaie congolaise n'est pas d'aujourd'hui. C'est pour cette raison. Je suis plus sceptique que la raison... Les raisons relevées par l'autorité monétaire puissent stabiliser la dépréciation. Pourquoi je dis ça, M. Gilleur? Nous savons très bien que, dès le départ, l'économie nationale congolaise est extravertie. Ça, c'est bien. Deuxièmement, L'économie nationale congolaise est informelle. Elle est aussi déficitaire. Mais quand on veut s'arrêter aux raisons avancées par l'autorité monétaire, je ne pense pas que ces raisons peuvent bien maîtriser la situation que nous avons maintenant. Le mieux à faire, c'est qu'on cherche d'abord à maîtriser ou bien à couper le chaîne des raisons que je viens d'évoquer si haut pour maîtriser la situation de la monnaie nationale.
Voilà. Alors, Chico, je vous renvoie à découvrir les ouvrages de professeur Boabo Akayembe sur les secteurs informels. Et comment, pour arriver à stabiliser la monnaie, il faut penser à formaliser les secteurs informels. Donc, c'est dans ce cadre-là que vous pouvez trouver quelques pistes et des solutions également par rapport à vos préoccupations. Merci beaucoup, Chico. Jules, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi, particulièrement aux militants du mouvement citoyen sans le peuple. Merci beaucoup, monsieur JR, de me donner la parole. Moi, je pense que j'encourage d'abord l'initiative, les recommandations qui ont été données par la Banque mondiale, par la Banque centrale. Mais moi, je pense que il y a certains aspects que la Banque mondiale n'a pas tenu compte. Il y a l'aspect de la spéculation, monsieur Gilles. Ici chez nous, il y a plusieurs spéculateurs dans les spéculateurs, ce qu'on appelle les spéculateurs baissiers ou les spéculateurs haussiers dans le marché. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, peut-être vous pouvez constater aussi ainsi, il y a plusieurs spéculations. On ne sait pas, nous avons quel taux dans notre pays. Alors, la Banque mondiale aurait aussi dit que il faut chercher à juguler les spéculations qui se trouvent dans les marchés. Deuxièmement, je voudrais dire que nous n'avons pas aussi une politique de macroéconomie, M. Gilles. Parce que quand vous regardez dans notre pays, chacun met son prix. Donc chaque commerçant a son prix, ce qui n'est pas régulé au niveau national. Et donc, si nous tenons toujours compte de ce qu'on appelle la macroéconomie, sans tenir compte de la microéconomie.
Voilà. Donc je crois que notre invité reviendra sur ce qu'il expliquait tout à l'heure, que au niveau du taux de change, nous sommes dans un régime flottant. Pour éclairer, il faut encore la lanterne des uns et des autres. Merci beaucoup, Gilles. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Vous pouvez également interagir avec d'autres compatriotes sur notre page Facebook.
Je dis à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, à nos staffs, à ceux qui nous sont chers, à tout le monde, il ne faut pas paniquer, mais il faut absolument écouter ce qu'on vous demande et protégez-vous, protégez les autres, ne prenez pas de risques. Et si vous avez des doutes sur quelque chose, n'hésitez pas à demander à ceux qui peuvent vous aider. Je dis aussi que la quarantaine n'est pas une menace. La quarantaine est une mesure de prévention. Ça permet d'identifier les contacts et donc il ne faut pas avoir peur de dire « j'ai contacté quelqu'un ». Parce que parfois les gens, ils ont peur d'être stigmatisés. Ils ont peur qu'on les identifie comme malades. La quarantaine nous permet d'éviter la propagation. Si les gens sortent de la quarantaine, ça veut dire qu'ils n'ont pas la maladie. S'ils avaient la maladie, ils ne sortent pas. Ils sont mis dans un endroit où ils sont isolés. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas cacher qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a été identifié comme malade. Au contraire, il faut le faire. Il faut faire attention parce que c'est ça le message. Le message, on va gagner. Regardez les pays de l'Asie. C'est le premier qui a été affecté. Qu'est-ce qui leur a permis de maîtriser la maladie? On le voit dans toute l'Asie, c'est quelques cas qui restent parce qu'ils ont respecté les instructions qui ont été données par leur pays. Donc je vous demande, c'est le message que j'envoie, nous sommes ensemble, c'est une maladie qui va affecter tout le monde si on ne fait pas attention et si on ne prend pas les précautions.
pour réduire la propagation du virus.
Ceci est un message de Mme Leïla Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous venons d'écouter cette série des auditeurs. On revient à vous, Monsieur Jean-Louis Kayembe. Quelle est la réaction? Qu'est-ce qu'on peut encore? Parce que j'ai vu, il y a quand même certains auditeurs qui aimeraient avoir beaucoup plus d'éclairage sur les régimes flottants. Parce qu'on a l'impression que finalement, ouais, comme je l'ai dit, j'ai commencé par cette question, qui est le vrai régulateur, l'autorité monétaire dans notre pays. D'aucuns semblent avoir une idée qu'il s'agit bien de ceux que nous appelons communément les cambistes, et qui dirigent, qui peuvent à tout moment changer. Ben, vous l'avez expliqué, mais si vous pouvez quand même revenir sur ça.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, comme un intervenant, un auditeur l'a si bien dit, sur le bien fait, le bien fondé des mesures qui ont été prises, proposées par la Banque centrale. Parce que vous savez, l'on a dit d'une part qu'il y a des exonérations qui sont accordées, et donc des allègements fiscaux qui entraînent pour les trésors et manquent à gagner. Alors, c'est tout à fait normal que, face à un contexte où, dans une situation où les moyens de l'État vont baisser du fait que l'État a pris certaines mesures qui impactent négativement ses finances, donc c'est tout à fait normal que, du côté des dépenses, l'État réduise les dépenses parce qu'il n'aura pas suffisamment des moyens à collecter des moyens, étant donné qu'il y a donc certaines mesures en faveur des entreprises et des ménages qui occasionnent de manques à gagner. Aussi, comme vous le savez, lorsque on vous parle d'une récession, c'est-à-dire on a l'activité économique est en baisse, le PIB a baissé, donc il y a eu destruction de richesses. On n'a même pas atteint les niveaux de production de l'année dernière. Nous avons un taux de croissance de moins 2,4. C'est une récession, c'est une réduction de richesses. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que lorsque on ne produit pas assez, l'État ne saura pas non plus, les entreprises n'auront pas à travailler comme il faut, n'auront pas à produire, à vendre comme il faut, les chiffres d'affaires des entreprises, et même ceux qui produisent, qui vendent, qui exportent, ne sera pas comme il a été la dernière fois, avec comme implication sur les finances publiques, l'État n'aura pas à collecter les taxes, ou n'aura pas à réaliser les recettes comme prévu, et donc l'ajustement automatique veut que les trésors, de son côté également, du côté des dépenses, puissent réduire les trains de vie, faire la part des choses entre les dépenses prioritaires et obligatoires, contraignantes, prioritaires, moins prioritaires, et faire des coupes budgétaires. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, ça, c'est une mesure que la plupart des pays au monde, parce que avant de proposer ce genre de mesures, nous avons regardé plus d'une centaine de pays, des mesures qui ont été prises en Europe, en Amérique, partout en Afrique. Nous avons regardé ce que les banques centrales ont fait au travers du monde, ce que les économies partout au travers du monde ont fait pour faire face à la crise, et de cela, donc de cette boîte d'outils, on a trouvé quelque chose qui peut également être fait à notre niveau. Alors revenons sur le marché d'échange. Le marché d'échange, comme vous savez, et les taux de change, c'est un prix. Il résulte de la confrontation entre l'offre et la demande. Le régime d'échange que nous avons, c'est celui qui ne veut pas que la Banque centrale fixe les taux pour dire, comme on a, vous rappelez, nous étions, je crois, dans l'hystérie 1997 ou 18, si mes souvenirs sont bons, nous travaillons avec un taux administré, un franc congolais était à 4$ et tout le monde devrait
se conformer,
faire des transactions à ces taux-là. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Généralement, ce qui se passe, c'est que si les taux, ces taux-là n'est pas les taux qui est sur le marché, parce que celui qui est le marché est déterminé par la force, la confrontation entre l'offre et la demande. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on avait constaté? On avait constaté qu'il y avait, d'ailleurs c'était je crois en 2001, on avait constaté qu'il y avait un écart énorme entre les taux de la Banque centrale et les taux qui étaient sur le marché. Alors que nous étions, je crois, autour de 4 francs congolais de dollars sur le marché, on était autour de 50. Je crois que c'était à l'époque où le gouvernement de 2001, à ce moment-là, ce fut le ministre des Finances Matungulu qui avait proposé et qui a obtenu du gouvernement cette décision. Il y avait une forte dépréciation, je crois, du franc congolais du fait de cet ajustement. Donc, Voilà pourquoi, dans la plupart des pays, on laisse les marchés et déterminer les taux de change. Mais quel est le rôle de la Banque centrale? Le rôle de la Banque centrale, parce qu'elle veille sur la stabilité externe de la monnaie, c'est de voir. Parce que on sait que c'est lorsqu'il y a trop de francs congolais que les taux bougent, il y a beaucoup de demandes sur les francs, il y a une sur-liquidité, il y a une trop de demandes sur les dollars. En cas de sur-liquidité, la Banque centrale essaye de ponctionner cette sur-liquidité et la stabiliser au niveau de la Banque centrale. Lorsque le problème se passe au niveau de la demande, lorsque le problème se passe au niveau de l'offre, c'est ça le lien fondé des réserves de la Banque centrale. Lorsqu'il y a moins de rentrées de devises au niveau de l'économie, les banques centrales ont des réserves pour, lorsqu'il y a moins de devises sur le marché, les banques centrales donnent des devises sur le marché pour concentrer l'offre de devises sur le marché de manière à stabiliser le taux de change. Et lorsqu'il y a trop de devises sur le marché, pour éviter une forte appréciation du taux, les banques centrales également rachètent une partie des devises pour conforter les niveaux de réserve. Donc, et le taux reste stable, donc il est déterminé par les forces du marché, mais sous la haute surveillance de la Banque centrale qui regarde la quantité de devises en circulation. S'il y en a beaucoup, elle achète. S'il y en a moins, elle en vend. Et regardez également la quantité de francs sur le marché. Lorsqu'il y en a beaucoup, on ponctionne, on stérilise. Lorsqu'il est dans une situation de surliquidité, et lorsqu'il y en a moins, nous créons de la monnaie, nous injectons la monnaie, bien sûr, avec
voilà. Alors, on va écouter les derniers auditeurs, et puis on revient à vous pour la conclusion de cette émission. Jean-Marie, vous êtes à Kasumbalesa, bonjour, et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à toute la radio.
Quelle est votre préoccupation?
Ah oui, pour moi, je ne donnerai pas raison à ces propos-là que la Banque centrale a pris, parce que ce dernier temps, si vous voyez très bien, je passe. La fois passée, on a vécu dans une récréation de la politique où tout était effectué vraiment sur base de chacun. C'est-à-dire, il y avait toutes les vols et consorts, mais le taux était toujours stable. Ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est le ministre des Finances et le directeur de la Banque centrale, ils n'ont qu'à prendre que la volonté de servir le peuple congolais au lieu de servir un groupe de personnes quelconque. Parce que la fois passée, on vivait, mais on avait que le taux stable. Depuis que les élections sont passées, le dollar commence déjà à monter. Là, ce n'est pas la raison de dire que non, il y a cela. Non, c'est la politique mal gérée de la Banque centrale.
Merci beaucoup, Jean-Marie. Albert, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur.
Oui, rapidement, quelle est votre contribution?
C'est Albert, le mot de Kisangani. Alors, je dis là, par rapport à la dépréciation des francs congolais dans ce pays, je pense que l'idée selon laquelle diminuer ou réduire les taxes afin de pouvoir permettre à ce qu'on ait la stabilité de la monnaie locale, je ne partage pas ce point de vue. Du fait que ce qui importe pour nous, c'est de pouvoir produire au profit de l'exportation, ce qui entraînerait ensuite en abondance de l'île, et ce qui pourrait même stabiliser la monnaie locale en ce sens-là. Parce que ce doit vraiment mettre toutes les batteries en marche afin de pouvoir d'abord stabiliser la monnaie locale et les francs congolais pour l'intérêt de sa stabilisation. Voilà,
merci beaucoup Albert. Alors on revient à vous Jean-Marie, Jean-Louis Kayembe. Donc si on retient par rapport à tout ce que vous avez dit, on n'a qu'à observer dans 48 heures comment le franc congolais ou la monnaie locale va se comporter dans le marché d'échange. Et puis bon, il faudrait pour des mesures structurelles voir à la longue comment renforcer la production. Donc je crois si je peux me résumer ainsi.
Oui, vous avez très bien résumé, Monsieur Gier. Donc, je crois que, comme je le disais, lorsqu'il y a un coup d'arrêt, bien sûr, quand on freine un véhicule, il y a de la poussière partout et ça bouge de partout. Si nous avons arrêté cette détérioration, la descente du franc congolais, et donc là, nous assistons donc à quelques turbulences. Je crois que nous devons rassurer les marchés. Nous sommes en train de préparer une réunion extraordinaire pour voir tous les paramètres sous le marché. Et nous pensons que d'ici 48 heures, la spéculation va s'arrêter et les forces du marché vont déterminer les vrais taux du marché. Et comme on le sait, si on voit qu'il y a moins de devises, on avait prévu une intervention mercredi, on va apprécier s'il faut la faire ou pas. Donc nous veillons sur les gros équilibres au niveau de l'économie, sur les équilibres au niveau extérieur de la balance des paiements, sur les équilibres au niveau des finances publiques, sur les équilibres au niveau des agrégats monétaires, sur les équilibres
donc au niveau extérieur de tous les marchés, là, l'offre et la demande, les devises, l'offre et la demande des biens et services. Donc nous voyons surtout ces équilibres et pour pouvoir à ce que qu'on ait des prix justes et qu'on ait un taux de change juste qui reflète le marché.
Jean-Louis Kayembe, directeur des opérations à la Banque Centrale, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie.
Voilà, merci également à Polydor Basunga et à Piro et la Mégie qui ont concouru à la production de cette émission. J.R. Lungembo, Luabung, Angie étaient à la présentation et à la coordination de ce programme. On se retrouve demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. À très vite.